La République, livre troisième. Tels sont, à l'égard des dieux, les discours qu'il conviendrait de faire entendre et d'interdire dès l'enfance à des hommes qui devront honorer les dieux et leurs parents et se faire un devoir de s'aimer mutuellement. Tout cela, dit Adimante, me paraît fort raisonnable. Maintenant, pour faire des hommes braves, repris-je, ne faut-il pas aussi des discours qui inspirent le mépris de la mort? Ou penses-tu qu'on puisse à la fois craindre la mort et avoir du courage? Non, par Jupiter! Un homme persuadé que l'autre monde est un lieu formidable, terrible, sera-t-il intrépide en présence de la mort, et pourra-t-il, dans les combats, la préférer à la défaite et à l'esclavage? Jamais. Il nous faut donc surveiller encore ceux qui traitent ce sujet et les prier de faire l'éloge de l'autre monde, au lieu de le calomnier sans raison, car leurs récits ne sont ni vrais, ni propres à inspirer de la confiance aux guerriers. Oui, il le faut. Nous effacerons par conséquent tous les passages de ce genre, à commencer par ces vers. J'aimerais mieux être laboureur au service d'un homme pauvre et qui aurait à peine de quoi vivre, que de régner sur la foule entière des morts. Et ces vers. Ne découvrit au regard des mortels et des immortels ce séjour d'épouvante et d'horreur redouté des dieux eux-mêmes. Et ceci. Grand Dieu, il y a encore de nous, dans les demeures de Pluton, une âme et une ombre, mais sans aucun sentiment. Et cela, lui seul pense encore, les autres sont des ombres errantes. Puis, son âme s'envolant de son corps descend dans les enfers, déplorant sa destinée d'abandonner la force et la jeunesse. Et encore, son âme s'enfuit sous terre comme de la fumée, en gémissant. Et ceci, telles des chauves-souris dans le fond d'un antre sacré, voltigent avec des cris quand une de la troupe est tombée du rocher et s'attachent l'une à l'autre, telles s'en allaient ensemble en gémissant. Nous conjurerons Homère et les autres poètes de ne pas trouver mauvais que nous effacions ces vers et tous ceux qui leur ressemblent. Ce n'est pas qu'ils ne soient poétiques et que la multitude n'ait du plaisir à les entendre, mais plus ils sont pleins de poésie, plus ils sont dangereux pour des enfants et des hommes qui, destinés à vivre libres, doivent moins s'effrayer de la mort que de l'esclavage. Oui, tu as raison, Socrate. Ainsi, nous devons rejeter encore ces noms odieux et formidables de Cocyte, de Styx, de Mane, d'Enfers et d'autres du même genre, qui font frémir ceux qui les entendent prononcer. Peut-être ont-ils leur utilité sous quelque rapport, mais nous craignons que la frayeur qu'ils inspirent n'ôte tout sang-froid aux guerriers et n'amollisse leur courage. Notre crainte est bien fondée. Alors nous devons les supprimer. Oui. Et les remplacer dans le simple discours et dans la poésie par des noms formés dans un esprit tout opposé. Cela est évident, Socrate. Nous retrancherons aussi ces lamentations et ces regrets qu'on met dans la bouche des grands hommes? Nous y sommes obligés pour être conséquents. Voyons auparavant si la raison désavouera ou non cette mesure. Nous disons que le sage ne regardera point la mort comme un mal pour un autre sage qui est son ami. Oui, nous le disons. Il ne gémira pas sur lui comme s'il était malheureux. Non. Nous disons aussi que le sage se suffit à lui-même et qu'il a sur tous les autres hommes l'avantage de n'avoir besoin de personne pour être heureux. Cela est vrai. Ce n'est pas pour lui un malheur intolérable de perdre un fils, un frère, des richesses ou d'éprouver d'autres pertes semblables. Non. Lorsqu'un pareil accident lui arrive, au lieu de s'en lamenter, il le supporte avec patience? Sans doute. Ainsi, nous aurons raison d'ôter aux hommes illustres les pleurs et les gémissements, et de les laisser aux femmes, encore aux femmes ordinaires, et aux hommes lâches, afin que ceux que nous destinons à la garde de l'État rougissent de pareilles faiblesses. Fort bien, Socrate. Nous prierons de nouveau Homère et les autres poètes de ne point montrer dans leur fiction Achille, le fils d'une déesse, tantôt couché sur le flanc, tantôt sur le dos ou la face contre terre, puis tout à coup se levant et errant, en proie à la douleur, sur le rivage de la mer immense. Et une autre fois, prenant à deux mains la poussière brûlante et s'en couvrant la tête. Ou pleurant et sanglotant sans fin, ni Priam, ce roi, presque égal au dieu suppliant tous ses guerriers, et se roulant dans la poussière, appelant tour à tour chacun d'eux par son nom. Nous les prierons avec plus d'instance encore de ne pas supposer que des dieux se lamentent et s'écrient « Malheureuse que je suis d'être la mère d'un héros !» Et non seulement des dieux, mais le plus grand des dieux qu'on défigure jusqu'à lui faire dire « Hélas, j'aperçois un héros qui m'est cher, poursuivi près des remparts, et à cette vue, mon âme est troublée. » Et ailleurs, « Hélas, voici le moment où Sarpédon, le mortel que je chéris le plus, doit, par la volonté du destin, tomber sous les coups de Patrocle, fils de Ménoétius. » Si en effet, mon cher Adimante, les jeunes gens écoutent de pareilles plaintes avec une attention sérieuse, au lieu de s'en moquer comme de faiblesses indignes des dieux, ils ne pourront pas les croire indignes d'eux-mêmes, puisqu'ils sont hommes, ni se reprocher des discours ou des actions semblables. Mais à la moindre disgrâce, ils s'abandonneront sans honte et sans courage aux gémissements et aux larmes. Rien n'est plus vrai, Socrate. Or, cela ne doit pas être. Nous en avons donné une raison qui doit nous persuader, tant que nous n'en trouverons pas une meilleure. Oui. Il faut condamner aussi le penchant au rire, car on ne se livre pas à une grande gaieté sans que l'âme éprouve une grande agitation. Il me semble, oui. Alors ne souffrons pas qu'on représente devant nous des hommes graves, encore moins des dieux dominés par le rire. Non, assurément. Mais s'il faut en croire, nous reprendrons Homère d'avoir dit « Un rire inextinguible éclata parmi les heureux habitants de l'Olympe quand ils virent Vulcain s'agiter pour les servir. » Ah oui, vraiment, si tu veux m'en croire. Cependant, la vérité a des droits dont il faut tenir compte. Si nous avons eu raison de dire que le mensonge inutile aux dieux est quelquefois pour les hommes un remède utile, il est évident que c'est au médecin à l'employer, et non pas à tout le monde indifféremment. Cela est évident. C'est donc au magistrat qu'il appartient exclusivement de mentir pour tromper l'ennemi ou les citoyens quand l'intérêt de l'État l'exige. Le mensonge ne doit jamais être permis à d'autres, et nous dirons que le citoyen qui trompe les magistrats est plus coupable que le malade qui trompe son médecin, que l'élève qui cache au maître qui le forme les dispositions de son corps, que le matelot qui n'informe pas le pilote de ce qu'il fait, lui ou son camarade, à l'égard du vaisseau et de l'équipage. J'en conviens. Ainsi, tout citoyen, de la classe des artisans, soit devin ou médecin ou charpentier, s'il est convaincu de mensonge, sera sévèrement puni comme tendant par sa conduite à renverser et à perdre le vaisseau de l'État. Ce qui arriverait si les actions répondaient aux paroles. Les jeunes gens n'auront-ils pas encore besoin de la tempérance? Assurément, Socrate. Or, les principaux effets de la tempérance ne sont-ils pas ordinairement de nous rendre soumises à ceux qui commandent et maîtres de nous-mêmes en tout ce qui concerne le boire, le manger et les plaisirs de l'amour? Il semble, oui. Alors nous approuverons le passage où Homère fait parler ainsi Diomède. Ami, assieds-toi en silence et suis mes conseils. Et cet autre. Les Grecs s'avançaient bouillants de courage, montrant leur respect pour les chefs par leur silence. Et les passages semblables. Très bien, oui. Mais approuverons-nous aussi ce vers? Ivrogne, qui a les yeux d'un dogue et le cœur d'une biche. Et ceux qui le suivent, et tant d'injures adressées par des inférieurs à leurs supérieurs dans les poètes et les autres écrivains. Non, Socrate. Je crois en effet que de pareils discours ne sont pas propres à inspirer la modération à la jeunesse, et s'ils lui donnent du goût pour toute autre chose, il n'y a pas lieu de s'en étonner. Qu'en penses-tu? Je pense comme toi. Hé, quoi? Lorsqu'Homère fait dire à Ulysse, le plus sage des Grecs, que rien ne lui paraît plus beau que des tables chargées de mets délicieux et un échanson puisant dans le cratère du vin qu'il porte et verse à la ronde dans les coupes. Et ailleurs, la mort la plus triste est de périr par la faim. Ou lorsqu'il nous montre Jupiter prompt à oublier, dans l'ardeur qu'il entraîne au plaisir de l'amour, tous les desseins qu'il a conçus quand seul il veillait pendant le sommeil des dieux et des hommes, est tellement transporté à la vue de Junon qu'il ne veut pas rentrer dans son palais, mais satisfaire sa passion dans le lieu même où il se trouve, lorsqu'il lui fait dire que jamais il n'éprouva de si vifs désirs, pas même le jour où ils se virent pour la première fois à l'insu de leurs parents. Ou lorsqu'il raconte comment, à la suite de pareils plaisirs, Mars et Vénus furent surpris dans les filets de Vulcain. Crois-tu que tout cela soit bien propre à porter les jeunes gens à la tempérance? Il s'en faut bien. Mais si des héros montrent dans leurs paroles ou dans leurs actions un courage à toute épreuve, il faut se donner le spectacle de leur lutte et écouter des vers tels que ceux-ci. Ulysse, frappant sa poitrine, parla ainsi à son âme. « Courage, ô mon âme, tu as déjà supporté de plus grands malheurs. » « Oui, sans doute, Socrate. » Des braves ne doivent pas accepter les présents et aimer les richesses. Jamais. Il ne faut donc pas leur chanter ce vers. Les présents gagnent les dieux et les rois vénérables. Il ne faut donc pas non plus louer la sagesse de Phénix, gouverneur d'Achille, pour avoir conseillé à ce héros de secourir les Grecs, si on lui fait des présents, sinon de garder son ressentiment. Jamais nous ne conviendrons qu'Achille lui-même a poussé l'amour du gain jusqu'à accepter des présents d'Agamemnon, et à ne rendre un corps inanimé qu'après en avoir reçu la rançon. De pareils traits ne méritent pas nos éloges. Je n'ose dire, par respect pour Homère, qu'on est coupable d'attribuer de pareilles actions à Achille, et de croire ceux qui les lui attribuent. Non, ce héros n'a jamais fait cette menace à Apollon. Tu m'as trompé, Phébus, le plus funeste des dieux, comme je te punirais si j'en avais le pouvoir. Il ne faut point croire qu'il ait été rebelle à la voix d'un dieu, le fleuve Xanthe, et prêt à le combattre, ni qu'il ait osé dire à l'autre fleuve, le Spercus, auquel sa chevelure avait été consacrée, je veux donner cette chevelure au héros Patrocle. Ni qu'il ait rendu à un mort cet hommage promis à un dieu. Nous nierons qu'il ait traîné le cadavre d'Hector autour du monument de Patrocle, ni égorgé et fait brûler sur le bûcher de son ami des captifs troyens. Nous soutiendrons que tous ces faits sont faux et nous ne souffrirons pas qu'on fasse croire à nos guerriers qu'Achille, le fils d'une déesse et du sage Pélée, qui lui-même était né d'un fils de Jupiter, l'élève du vertueux Chiron, ait eu l'âme assez désordonnée pour réunir en elle deux vices contraires, la grossièreté jointe à la cupidité, avec un mépris superbe des dieux et des hommes. Oui, tu as raison. Gardons-nous aussi de croire et de laisser dire que Thésée, fils de Neptune et Pirithous, fils de Jupiter, ont tenté des enlèvements aussi criminels, ni que nul enfant des dieux, nul héros ait osé commettre les cruautés et les impiétés que des fictions calomnieuses leur prêtent aujourd'hui. Mettons les poètes dans l'alternative de ne plus leur imputer ces faits, ou de ne plus les reconnaître comme enfants des dieux, et qu'ils ne puissent pas faire l'un et l'autre à la fois. Défendons aussi toute tentative pour persuader à la jeunesse que les dieux engendrent de mauvaises choses, et que les héros ne valent pas mieux que les hommes. Ces discours, nous le disions tout à l'heure, blessent à la fois la religion et la vérité, car nous avons montré qu'il est impossible que rien de mauvais vienne des dieux. Certainement, Socrate. De plus, ces discours sont dangereux pour ceux qui les écoutent. Quel homme, en effet, ne se pardonnera ses propres crimes s'il est persuadé qu'il n'est pas plus coupable que les vrais enfants des dieux tout proches de Jupiter, qui ont au sommet de l'Ida leur autel paternel, dans les pures régions de l'air, et qui portent encore dans leurs veines le vrai sang des immortels. Ces raisons nous obligent à ne plus permettre de pareilles fictions, de peur qu'elles ne produisent dans la jeunesse une malheureuse facilité à commettre le crime. Oui, sans doute. Eh bien, repris-je, puisque nous en sommes sur les discours qu'il convient ou ne convient pas de tenir, n'avons-nous pas quelque autre genre de discours à examiner? Nous savons comment il convient de parler des dieux, des démons, des héros et des enfers. Oui. Il nous resterait les discours sur les hommes. Cela est évident, Socrate. Mais, mon cher ami, il est impossible pour le moment d'en donner les règles. Pourquoi, Socrate? Parce que nous dirions, je pense, que les poètes et les prosateurs tombent, en parlant des hommes, dans les plus graves erreurs lorsqu'ils disent que généralement les hommes injustes sont heureux et les justes malheureux, que l'injustice est utile tant qu'elle demeure cachée, qu'au contraire, la justice est un profit pour qui ne la possède pas, un mal pour qui la possède. Nous interdirions de pareils discours en prescrivant à l'avenir de dire le contraire en vers et en prose. N'est-il pas vrai? Je le sais bien. Mais si tu conviens que j'ai raison, j'en conclurai que tu conviens aussi de ce qui est en question depuis le commencement de cet entretien. Oui, ta réflexion est juste, Socrate. Ainsi, remettons à dire, quels sont les discours qu'il faut tenir en parlant des hommes, lorsque nous aurons découvert ce que c'est que la justice, et si elle est, par elle-même, avantageuse à celui qui la possède, soit qu'il passe ou non pour juste. Très bien.